VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Billon.
Bonjour à tous, il est 6h à Washington, 11h temps universel. Donald Trump s'est adressé hier aux deux chambres réunies du Congrès américain, loin de la tonalité de son discours d'investiture. Le 45e président des États-Unis a décliné ses priorités pour donner corps à un engagement central, donner la priorité aux Américains. Compte rendu, Nicolas Pineau.
Oui, le 45e président des États-Unis a pris de la hauteur cette nuit pour ce discours prononcé devant le Congrès américain, loin des accent belliqueux et des polémiques qui rythment le début de son mandat. Donald Trump a d'abord appelé l'Amérique à l'unité en dénonçant notamment les attaques contre les centres communautaires juifs du pays ou la mort de deux Américains d'origine indienne tués dans ce qui semble être un crime raciste.
Well, we may be a nation divided.
Nous sommes peut-être une nation divisée sur la politique. Nous sommes un pays qui reste uni pour condamner la haine et le mal dans toutes ses formes les plus affreuses. Je suis là ce soir pour délivrer un message d'unité et de force, et c'est un message délivré du plus profond de mon cœur.
Le président Trump a rappelé l'une de ses promesses de campagne et promis de créer des millions d'emplois aux États-Unis. Il demande ainsi au Congrès de valider un plan de 1 000 milliards de dollars pour reconstruire les infrastructures du pays, comme les routes ou les ponts. En matière de lutte contre l'immigration clandestine, le président Trump annonce que le mur à la frontière mexicaine sera bientôt construit. Il affirme aussi que la politique migratoire américaine va changer pour se tourner vers une immigration choisie. Au mérite.
Je vais faire revenir des millions d'emplois et protéger nos travailleurs. Ça veut dire aussi réformer notre système d'immigration légale. Des pays comme le Canada ou l'Australie et bien d'autres dans le monde ont des systèmes migratoires basés sur le mérite. C'est un principe de base que ceux qui veulent entrer dans un pays doivent pouvoir subvenir à leurs besoins financiers, mais ce n'est pas ce qu'on fait aux États-Unis, utilisant les maigres ressources publiques dont dépendent nos concitoyens les plus pauvres.
Alors que Donald Trump demande au Congrès une hausse du budget de la défense de 54 milliards de dollars, le président américain a redit hier sa volonté de vouloir détruire l'organisation État islamique qui résiste toujours en Irak et en Syrie.
Nous prenons aussi des mesures fortes pour protéger nos frontières du terrorisme islamique radical. Nous avons vu les attaques à la maison de Boston, à San Bernardino, au Pentagone, et même, le World Trade Center. On a vu les attaques en France, en Belgique et en Allemagne, et partout dans le monde. On ne peut pas laisser notre pays devenir un sanctuaire pour les extrémistes. C'est pourquoi mon administration travaille pour améliorer les mesures de contrôle des migrants, et nous prendrons d'autres mesures bientôt pour maintenir la sécurité de notre nation et maintenir en dehors du pays ceux qui nous veulent du mal. Comme promis, j'ai instruit le ministère de la Défense de développer un plan pour démolir et détruire le groupe État islamique, un réseau de sauvages sans foi ni loi qui a massacré des chrétiens, des musulmans, des hommes, femmes et des enfants de toute religion et de toute croyance.
Autre thème cher à ses électeurs, Donald Trump demande aux républicains et aux démocrates de supprimer l'Obamacare, la réforme de l'assurance maladie, une loi symbolique votée sous son prédécesseur Barack Obama.
C'est le 11 mars que la dépouille mortelle d'Étienne Tshisekedi va être rapatriée à Kinshasa. Sa famille en a fait l'annonce à Bruxelles, où le corps est gardé depuis son décès le 1er février dernier. Eddie Sango a joint à Bruxelles l'abbé Théodore Chilumba.
La date qui est retenue jusque-là est celle du 11 mars 2017. Et je confirme, Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba a fait un communiqué de presse. J'étais à ses côtés au sujet des obsèques du président Étienne Tshisekedi wa Moulumba. Le communiqué est très clair là-dessus. Hein. C'est après concertation des deux familles, biologiques et politiques, et de presse, qu'on a pris cette décision-là. Les conditions ont été posées. Les autorités de Kinshasa ont proposé un endroit. Donc après concertation, les deux familles ont trouvé que dans un premier temps, on peut inhumer le corps du président Tshisekedi à la Gombe, mais après, on trouvera un autre endroit où sera érigé un mausolée.
Et qu'en est-il de la nomination du Premier ministre que sa famille politique exigeait?
Les démarches sont là. On sait que ça va venir parce que le président lui-même avait déjà présenté le Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016.
La dépouille de M. Étienne Tshisekedi est restée à Bruxelles, entre autres aussi pour l'autopsie. Qu'en est-il?
Les avocats qui ont les dossiers font leur travail et après je vous dirai quoi.
L'abbé Théodore Chirumba, le secrétaire particulier d'Étienne Tshisekedi à Bruxelles. Au Gabon, fin des préparatifs du dialogue politique voulu par le président Ali Bongo Ondimba. Réunis depuis une quinzaine de jours, la majorité et une partie de l'opposition ont bouclé les travaux d'un comité préparatoire paritaire pour organiser le dialogue inclusif et sans tabou que souhaite l'exécutif 6 mois après les violences qui ont suivi le scrutin présidentiel du 27 août. La coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping et ses partisans n'a participé ni de près ni de loin à ses travaux préparatoires, a indiqué à l'AFP son porte-parole Jean-Gaspard Ntoutoumem. 69 étudiants ont été condamnés mardi au Tchad à 1 mois de prison ferme pour outrage à l'autorité de l'État après avoir perturbé une visite ministérielle alors que les universités grondent contre la suppression des bourses. Les étudiants de l'Union des étudiants tchadiens, UNET, ont également été condamnés à 50 000 francs CFA d'amende par personne. 3 étudiants ont été relaxés au bénéfice du doute par le tribunal de N'Djamena. Aussitôt le verdict tombé, ils ont été transférés à la maison d'arrêt de la capitale tchadienne.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Les députés gambiens ont adopté mardi une loi supprimant de la Constitution la limite d'âge à 65 ans pour les candidats à l'élection présidentielle. Cette limite d'âge également valable pour les candidats au poste de vice-président avait été fixée après révision de la Constitution entrée en vigueur en 1997, sa suppression intervient après la contestation fin janvier de la nomination par le président Adama Barrow comme vice-présidente de Mme Fatoumata Diallo Tambadjang, âgée de 68 ans, soit 3 ans de plus que l'âge limite. Dans le nord du Mali, l'autorité intérimaire de la région de Kidal, fief de l'ex-rébellion à dominante Touareg, a été installée hier après plusieurs reports. Jacques Aristide.
À Kidal, le président du conseil régional, Hassan Ag Fagaga, a reçu hier les symboles de l'État lors d'une cérémonie sous haute surveillance des forces de l'ONU et de l'opération française Barkhane. Les différentes autorités devaient initialement être installées à partir du 18 février, mais plusieurs groupes avaient contesté certains choix et le gouvernement de Bamako, par souci d'apaisement, avait reporté les cérémonies. Maintenant, les dirigeants provisoires des 4 autres régions administratives seront installés jeudi à Gao et Menaka et vendredi à Tombouctou et Taoudeni. En vertu de l'accord de paix de 2015, ces autorités intérimaires devront gérer les 5 régions du Nord malien en attendant l'élection par la population d'assemblées dotées de pouvoirs importants. Ces nouvelles autorités devront préparer ces élections et favoriser le retour des déplacés du conflit politico-militaire dont le Mali tente de se relever depuis 2012.
Le président algérien Abdelaziz Bouteflika souffle jeudi ses 80 bougies sur fond d'interrogation persistante sur sa santé chancelante qui l'éloigne de la scène publique depuis des années. Les spéculations ont été relancées de plus belle avec l'annulation à la dernière minute de la visite prévue le 20 février à Alger de la chancelière allemande Angela Merkel. Après sa dernière réélection, M. Bouteflika avait prêté serment en fauteuil roulant et d'une voix hésitante. Il n'avait pas pu lire l'intégralité de son discours, se contentant de quelques paragraphes. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est défendu d'abandonner les Coptes, assurant que les forces de l'armée et de la police étaient mobilisées contre les djihadistes. Le groupe djihadiste État islamique, dont une branche locale sévit dans le nord de la péninsule du Sinaï, avait publié la semaine dernière une vidéo dans laquelle il promettait de prendre pour cible les Coptes, la communauté chrétienne en Égypte. Et puis Mindelo, la deuxième ville du Cap-Vert, a vécu le début de cette semaine au rythme de son carnaval annuel avec des défilés et animations lui donnant des airs de Rio de Janeiro, qui abrite la plus célèbre de ses festivités. La manifestation a pris fin mardi soir à Mindelo, principale ville de l'île de São Vicente, dans le nord de l'archipel, et la deuxième ville du pays, après Praia, la capitale. Jean-Roger Billon à ce micro, prochain journal dans 50 minutes, en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous. Au revoir.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.